prêt longue durée de Banque Atlantique pour acquérir, construire ou rénover votre logement à taux exceptionnel vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, merci d'être avec nous, merci de votre confiance. Nous sommes vendredi, profitez-en pour commenter l'actualité de votre choix. Vous le savez, ce sont vos coups de gueule, vos coups de cœur sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. Alors, certains d'entre vous nous appellent de la République démocratique du Congo pour réagir à cette feuille de route qui demande aux rebelles du M23 de cesser les hostilités dans l'est du pays dès ce soir, 18h. Des réactions également de Guinée après l'ouverture hier du dialogue national boycotté par les principaux partis politiques. D'autres souhaitent prolonger notre débat d'hier sur le retour de Charles Blé Goudé. Il est attendu demain en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence. On parlera évidemment football, la Coupe du Monde et les débuts compliqués des équipes africaines. Aucune des 5 sélections ne s'est imposée pour l'instant. Voilà donc un aperçu de cette libre antenne. Vous aussi, vous souhaitez commenter l'actualité, vous nous rejoignez. 33 9 693 693 70. C'est comme tous les jours, évidemment, pendant l'émission. Nous scrutons vos commentaires sur nos réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Soyez le bienvenu. Alpha, bonjour. Allô, Alpha.
Allô, bonjour.
Bienvenue, Alpha. Vous êtes à Conakry, en Guinée.
Oui, je suis à Conakry.
Voilà. Et vous avez des questions concernant la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali?
Oui, M. Wan, après avoir annoncé la fin de son engagement dans la MINUSMA au plus tard en 2023, l'Allemagne a tranché pour un départ en mai 2024. Maintenant, ma question est de savoir pourquoi l'Allemagne ne s'aligne pas sur les autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni qui quitteront le Mali l'année prochaine.
Ouais, c'est vrai qu'après le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire la semaine dernière, c'est au tour de l'Allemagne d'annoncer le retrait de ses militaires présents au Mali. Bonjour Pascal Thibault.
Oui, bonjour Juan, bonjour Alpha.
Correspondant de RFI à Berlin, visiblement Pascal, l'Allemagne veut prendre le temps nécessaire pour retirer ses militaires du Mali.
Oui, effectivement, c'est la leçon qu'on peut tirer de la décision qui a été trouvée, du compromis, peut-on dire, qui a été trouvé après la réunion de crise à la chancellerie autour de Olaf Scholz et des deux ministres pris principalement s'opposaient sur ce dossier, à savoir la ministre de la Défense et la ministre des Affaires étrangères. Fallait-il privilégier un retrait rapide ou bien rester sur la durée pour essayer de venir en aide au Mali et d'accompagner le processus électoral qui pourrait déboucher en 2024 sur des élections.
Oui, l'opération de retrait débutera donc l'été prochain. Elle se terminera au printemps 2024.
Oui, exactement. Donc, c'est donc une décision qui soutient la position de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, partisante d'un maintien sur place de l'Allemagne au Mali ou au-delà dans la région. Également, un soutien à la présence internationale de l'Allemagne, car c'est aussi ça qui se dessine en sous-main. Est-ce qu'il faut que l'Allemagne, comme semble souhaiter le ministère de la Défense, se retranche sur sa propre défense et ses engagements au sein de l'OTAN au détriment de missions internationales? C'est aussi toute la question qui se pose. Donc ouais. Le début du retrait, ce sera l'été prochain pour se terminer en mai 2024. Certains s'interrogent si les élections ont lieu comme prévu au premier semestre 2024 au Mali. Est-ce qu'une force allemande, aujourd'hui 1100 hommes, mais déjà largement diminuée à cause du retrait, est-ce qu'elle est encore en mesure d'accompagner, si c'est son souhait, le processus électoral? C'est une question qui est également posée parmi les détracteurs, en quelque sorte, d'un engagement plus long.
Et si j'ai bien tout compris, Pascal Thibault, le retrait de l'armée allemande du Mali doit encore être voté par le Parlement en Allemagne ?
Oui, alors tous les engagements internationaux de l'Allemagne sont soumis à approbation et à des mandats du Bundestag, du Parlement allemand. Ces mandats sont annuels. L'actuel mandat court donc jusqu'en mai 2023. Ça signifie donc que si la décision qui a été arrêtée cette semaine est maintenue, un dernier ultime mandat serait voté au printemps prochain. Donc, encore une fois, pour une prolongation d'un an jusqu'en mai 2024 en fonction du calendrier arrêté au terme de ce compromis mardi dernier.
Alpha, vous avez une dernière question?
Et la dernière question, j'aimerais savoir, après ce départ, comment l'Allemagne pourrait-elle continuer sa lutte contre le terrorisme dans le Sahel ?
Pascal Thibault, à Berlin.
Oui, alors là aussi, j'évoquais les deux écoles, ceux qui plaident du côté du ministère de la Défense plutôt pour un retrait sur la défense pour ce qui concerne les engagements de la Bundeswehr sur le théâtre européen, et puis les affaires étrangères et aussi le ministère du Développement qui souhaitent qu'on reste présent dans la région. Et si effectivement une présence au Mali jusqu'en 2024, voire avant, car l'Allemagne veut essayer de trouver d'autres partenaires pour renforcer la MINUSMA, ce qui ne semble pas très facile. Certaines forces, à commencer par le ministère des Affaires étrangères, veulent rester dans la région, et le Niger, comme pour d'autres pays, semble être peut constituer une alternative pour conserver une présence allemande dans la région et dans le Sahel, en raison aussi des autres dimensions politiques, migratoires, lutte contre l'islamisme qui constituent aussi un pilier important de cette présence dans la région.
Oui, on voit bien, Pascal Thibault, en vous écoutant, que cette présence militaire au Mali et plus largement au Sahel donne lieu à un bras de fer au sein même du gouvernement, hein, entre la ministre de la Défense et la ministre des Affaires étrangères. Alpha, à Conakry, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, merci Johan, et merci à toute la rédaction et merci à vos invités.
Et surtout à Pascal Thibault, effectivement, notre correspondant à Berlin. Bonne journée à tous les deux. Innocent, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe et un très très grand coucou de la part des habitants de Semekoji à toute la rédaction.
Ah, Semekoji, c'est au Bénin. Merci de ce coucou, Innocent. Vous avez des questions, vous, sur la colère des salariés de la plus grande usine de fabrication d'iPhone au monde ?
Bien sûr que oui, et c'est quand même rarissime de constater en Chine des manifestations des travailleurs pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Voici mes questions par rapport à la situation. Que sait-on des conditions de travail des employés ? Pourrait-on imaginer que de telles manifestations se généralisent dans d'autres usines ?
Oui, des centaines de salariés qui ont manifesté mercredi dans cette immense usine. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan, bonjour Innocent.
Correspondant permanent de RFI à Pékin, pourquoi manifestent-ils ? J'imagine, comme le dit Innocent, que c'est pour leurs conditions de travail, mais pas seulement, visiblement.
Oui, alors les conditions de travail, elles sont très dégradées en ce moment, Innocent, tout simplement parce qu'on est dans le cadre de la politique zéro Covid en Chine, donc les usines travaillent en boucle fermée. De toute façon, les salariés de Foxconn restent sur le campus, mais d'habitude, ils ne peuvent plus sortir. Et là, surtout, il y a eu des infections, donc certains étaient dans des dortoirs, isolés ou dans des centres d'isolement qui étaient avec des problèmes de ravitaillement de nourriture. Mais là, on est au deuxième exode, si j'allais dire, de ces manifestations, et puis suivi d'un exode de ces ouvriers. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore ces problèmes, certainement, mais il y a surtout un problème de contrat de travail aujourd'hui. On leur a promis un certain contrat de travail, 38 yuan de l'heure, donc à peu près 4 euros de l'heure, ce qui est plus que d'habitude. Et ils pensaient, ces ouvriers contractuels qui ont été recrutés par dizaines de milliers ces derniers jours, pouvoir toucher cet argent. Et on leur a dit que finalement, ça serait le 25 du mois qui serait payé. Et puis surtout, après, les vacances qu'on appelle ici les vacances de la fête de printemps. Donc il y a eu une grosse colère, ils sont montés voir les chefs, ils ont essayé de négocier, ça n'a pas marché mardi, puis il y a eu ces grosses manifestations. Du coup, à cause de cela, Innocent, effectivement, ils ont reçu des indemnités hier, 20 000, dit Reuters ce matin, peut-être plus, sont repartis avec une indemnité de 10 000 yuan, 1 300 euros chez eux, parce qu'ils ont vraiment tapé du poing sur la table, pas simplement pour les conditions de travail, mais parce qu'ils se considèrent comme un non-respect de leur contrat de travail. Alors ces conditions, effectivement, sont dégradées en ce moment. Elles ne sont pas dégradées que chez Foxconn. Dans toutes les entreprises qui travaillent comme ça, ce qu'on appelle en circuit fermé, en gros, vous dormez à côté des chaînes de montage et vous ne sortez pas. Ça peut poser problème demain. C'est d'ailleurs ce qui interpelle les autorités qui ont beaucoup soutenu l'usine dans sa campagne de recrutement et aussi en essayant d'améliorer les quarantaines. Ça pose des questions. Et d'ailleurs, Apple a répondu hier en disant qu'il allait prendre en compte les plaintes des salariés.
D'accord. Et vous parliez de Foxconn. Foxconn, c'est le sous-traitant. C'est le propriétaire de cette usine.
C'est ça.
Oui, c'est ça. Très bien. Il peut y avoir des mouvements de colère similaires dans d'autres usines à travers le pays, Stéphane Lagarde ?
Alors on peut l'imaginer, mais on peut imaginer aussi, on l'a vu d'ailleurs hier, que le gouvernement chinois ne fera pas rien, hein. C'est-à-dire qu'ils interviendront. Là, on a vu que la police armée était intervenue. Le gouvernement chinois ne laissera sûrement pas faire s'il y a des mouvements sociaux comme ça. Donc peut-être quitte à fermer les usines, on ne continuera pas la production dans ce cas.
À suivre donc. Stéphane Lagarde, correspondant permanent de RFI à Pékin, merci d'avoir été avec nous. Innocent, bonne journée à Sémé Podji au Bénin. Et vous rappelez évidemment quand vous le souhaitez, il est 9h20 ici à Paris. Vos questions à la rédaction de RFI, vous connaissez le principe, vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien vous nous appelez et on se fait évidemment un plaisir de vous répondre en direct. Mahmoud, bonjour.
Bonjour, Juan.
À Niamey, au Niger.
Exact.
Soyez le bienvenu. Vous avez des questions sur l'Ukraine?
Oui, j'ai une question sur la guerre en Ukraine. Mm-hmm. Alors, après 9 mois de guerre, l'armée russe semble reculer dans toutes les régions. Moi, j'aimerais savoir quelle pourrait être la nouvelle stratégie de Poutine en Ukraine.
Quelle est la nouvelle stratégie russe en Ukraine? Le réseau, vous aviez une voix quelque peu robotisée, mais enfin, on a compris quand même l'essentiel de votre question. Mahmoud, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Elsa Vidal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef du service en langue russe de RFI. Mahmoud le rappelait, à l'instant, les troupes russes ne progressent plus. Par endroits, elles se sont même retirées. Et on a vu effectivement, Elsa, ces derniers jours, la nouvelle stratégie russe qui consiste finalement à bombarder les infrastructures stratégiques, les infrastructures essentielles.
Oui, tout à fait. Bonjour Mahmoud. Votre question, elle a beaucoup de sens parce que depuis le début de la guerre, on s'attendait à ce que la Russie mène d'abord une guerre d'offensive, ce qu'elle s'était forcée de faire avec très peu de succès quand elle a tenté de prendre Kiev, par exemple. Mais à l'heure actuelle, on assiste à un redéploiement complet de la stratégie russe, c'est-à-dire que les Russes de l'offensive sont passés des positions défensives, notamment en ce qui concerne la région de Kherson. À Kherson, les troupes sont désormais stationnées du côté oriental de la rive du Dniepr, et on parle d'à peu près 20 à 30 000 combattants qui se sont repliés sur cette rive. On voit également la construction de lignes de défense d'à peu près 3 lignes chacune qui concentrent des blocs de béton érigés pour stopper des avances de chars principalement, et des lignes de béton qu'on appelle des dents de dragon qui sont généralement doublées et accompagnées d'une troisième ligne de tranchées. On a vu apparaître sur des images satellites essentiellement des lignes de ce type dans la région de Kherson et puis plus haut dans la région du Donbass. Ce qu'on comprend de tous ces développements, c'est qu'il s'agit donc d'un retournement dans la stratégie russe et qui va désormais signifier une guerre plutôt de longue durée dans le Donbass pour préserver à la fois le Donbass contrôlé par les troupes russes et bloquer une éventuelle avancée vers l'entrée en Crimée.
Et ce qu'on voit aussi, Elsa Vidal, et je parle évidemment sous votre contrôle, c'est que les Russes, en ce moment, essayent d'affaiblir au maximum les capacités électriques, énergétiques de l'Ukraine. L'hiver est là, et ce que cherchent à faire les Russes, c'est de priver la population d'électricité, d'eau et de chauffage.
Exactement. Ces lignes de défense dont je parlais sont faites pour décourager les assauts ukrainiens qui devraient être nombreux. Les Ukrainiens ont intérêt à poursuivre sur leur lancée offensive et parallèlement, les Russes ont cherché à décourager les militaires. Ils cherchent à miner le moral des civils en infligeant à la population ukrainienne des conditions de vie extrêmement difficiles. L'Ukraine a connu son premier blackout, coupure d'électricité totale. On veut leur imposer le froid et l'obscurité pour diviser la population et forcer à la négociation.
Voilà, et créer une catastrophe humanitaire. Mahmoud, a-t-on répondu à vos questions ?
Ah oui, c'est très clair, merci.
Eh bien, merci surtout à Elsa Vidal, chef du service en langue russe de RFI. Il nous reste 5 minutes, on a largement le temps de prendre une dernière question, ce sera la dernière question de la semaine. Delvi est à Pointe-Noire, au Congo. Bonjour Delvi.
Bonjour Juan, et un grand bonjour à votre formidable équipe au Standard.
Merci de vos encouragements Delvi, merci de votre confiance. Des questions sur la contestation en Iran?
Après plus de 2 mois de contestation en Iran, les manifestations sont toujours réprimées par le régime. Les autorités pourraient-elles répondre à certaines des revendications ?
Ouais, ça fait effectivement plus de deux mois que ce slogan « Femme, vie, liberté » est martelé un peu partout en Iran. Bonjour Firouzeh Navahandi.
Je vous en prie, bonjour.
Merci infiniment, je ne me relisais pas. Donc voilà, Firouzeh Navahandi, professeure émérite à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de l'Iran. Ça fait deux mois maintenant qu'il ne se passe pas un jour sans une manifestation contre le régime. Il faut rappeler à nos auditeurs que la colère qui s'exprime dans les rues, elle dépasse largement la question du voile obligatoire, puisque tout est parti du fait qu'une jeune femme a été tuée par la police pour ne pas porter correctement le voile.
Oui, tout à fait. Tout d'abord, il faut dire que le voile n'est que le symbole maintenant des grandes manifestations qui ont lieu en Iran. La colère des femmes en particulier porte sur toutes les mauvaises conditions dans lesquelles elles vivent et toutes les exactions qu'elles doivent subir. Les hommes et toutes les catégories de la population les ont rejoints entre-temps. Cela étant dit, pour répondre à la question, aujourd'hui, les autorités ne peuvent plus répondre à certaines des revendications, à savoir que les manifestants ne veulent plus que de changements au sein du régime. Ils rejettent carrément le régime. Les Iraniens sont allés voter plusieurs fois en espérant que les choses allaient changer lors des élections présidentielles, mais aujourd'hui, ils ne veulent plus de réformes, ils veulent carrément la fin
du régime. Ils veulent la chute du régime, mais justement pour calmer cette colère, Firouzeh Navahandi, est-ce que le régime justement ne peut pas faire quelques concessions ?
Ça ne suffit plus pour les Iraniens. Aucune concession ne pourra les satisfaire, aucune réformette, même autoriser le voile, ce qu'ils ne feront pas, ne pourrait plus les satisfaire. Ils veulent vraiment un changement radical et tourner la page enfin de ce régime qui depuis 43 ans sévit en Iran.
Ouais, et face à ce régime, on a donc des manifestants qui semblent plus que jamais déterminés, qui n'ont pas peur, qui sont donc prêts à aller jusqu'au bout.
Tout à fait. Les manifestants n'ont plus rien à perdre. Toutes leurs demandes ont été rejetées jusque-là. Ils vivent dans des conditions insupportable économiquement, politiquement, c'est également la chape de plomb. Donc ils estiment que finalement, cela ne pourrait plus s'aggraver. Ils n'ont plus rien à perdre.
Ouais. Delvouy, avez-vous une dernière question ?
Oui, monsieur Rouen. Le régime accuse régulièrement les États-Unis de déstabiliser le pays. Quel soutien les Occidentaux apportent-ils aux manifestants ?
Quel soutien les Occidentaux apportent-ils aux manifestants ? Bon, le fait que les Américains soient systématiquement pointés du doigt dès qu'il y a une manifestation en Iran, ça fait partie de la stratégie du régime.
Tout à fait. De toute façon, un certain nombre d'Iraniens, tout d'abord, pensent que si les États-Unis décident d'un changement, le changement aura lieu en Iran. Cela étant, les dirigeants actuels, c'est leur habitude, c'est leur stratégie, c'est d'accuser les États-Unis ou d'autres pays occidentaux de déstabiliser le pays. Et effectivement, ce n'est pas une question de déstabilisation. À partir du moment où un pays soutient une manifestation, à partir du moment où il y a des mesures qui sont prises, et c'est le cas aujourd'hui, j'y reviens tout de suite, l'accusation semble être fondée pour la République islamique, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Ouais. Lorsque les Américains soutiennent un groupe de réflexion, c'est la déstabilisation pour la République islamique. Lorsque le président Macron accueille quatre jeunes femmes qui sont des opposantes au régime actuel, alors c'est aussi une accusation de déstabilisation pour le régime iranien.
Alors que ces manifestants n'ont pas besoin d'être instrumentalisés par l'étranger pour exprimer leur colère. Merci infiniment Firouzeh Navahandi, spécialiste de l'Iran, et un grand merci évidemment à Delvi.